J'ai dit à maintes reprises que l'État, issu de la Révolution nationale, devait être autoritaire et hiérarchique.
Bonjour, aujourd'hui quatrième épisode de notre série « Le régime de Vichy fut-il une dictature ?» avec l'historien Laurent Joly. Dans l'épisode précédent, nous avons vu comment le régime de Vichy, à peine né, met en place, dès juillet 40, son programme de révolution nationale et d'exclusion des Juifs. Si les orientations du régime de Vichy sont bien en place dès l'été 1940, on va voir comment le régime, en 1941 et 1942, va se radicaliser. D'abord, la collaboration. Dès juillet 1940, on espère à Vichy une collaboration avec l'Allemagne, l'idée étant acquise que l'avenir de la France se situe dans une Europe dominée par l'Allemagne. Le 24 octobre, près de Tours, a lieu la fameuse rencontre de Montoire entre Hitler et Pétain. L'image impressionnante des deux hommes se serrant la main marque le point de départ de la collaboration franco-allemande. Pétain, conscient que les Français sont inquiets, leur explique qu'il est venu de son plein gré à ce rendez-vous, qu'il n'a subi aucun diktat et qu'il est entré dans la voie de la collaboration afin de préserver l'unité française et participer de manière constructive au nouvel ordre européen. La collaboration est désormais la politique officielle du régime de Vichy.
C'est dans l'honneur et pour maintenir l'unité française, une unité de 10 siècles, dans le cadre d'une activité constructive du nouvel ordre européen, que j'entre aujourd'hui dans la voie de la collaboration.
France Inter, le fil de l'histoire. Stéphanie Duncan.
Laurent Joly, après la rencontre de Montoire, en quoi consiste cette collaboration? Elle est militaire, politique, et comment va-t-elle évoluer en 1941?
Alors, ça bouge pas trop en octobre 1940, pour la simple et bonne raison que Vichy n'a pas grand-chose à offrir aux Allemands. Et les Allemands, Hitler, il est très rapidement, il prend acte du fait que la bataille d'Angleterre est perdue, et il tourne son regard vers l'Est, vers l'attaque contre l'Union soviétique. C'est ça qu'il prépare, et donc la France, ça l'intéresse plus trop. Et on a à la tête du gouvernement, parce qu'il y a un changement important, Pétain, qui était le chef du gouvernement, chef de l'État, il va confier le pouvoir effectif de président du Conseil à l'amiral Darlan. Et l'amiral Darlan, il veut relancer la politique de collaboration très, très vite. D'abord, les Allemands ne sont pas contents que Pétain ait renvoyé Laval. Donc, on est dans un moment, printemps 41, où les Allemands ont des succès. On est à la veille d'attaquer l'Union soviétique. Et il y a une sorte de précipitation de Vichy. Et on voit des offres d'alliances qui sont faites dès le mois de mai 1941, des accords qui sont pris parce que les Allemands ont besoin, là, pour le coup, de l'aide française en Syrie. Et y a comme ça des offres qui sont faites par Vichy. Mais évidemment, après Barbarossa, en juin 1941, là, Vichy se dit « Mais là, maintenant, on a une carte à jouer. On a le même ennemi avec l'Allemagne. » Presque un ouf, parce que le fait qu'il y avait ce pacte germano-soviétique, c'était gênant pour Vichy, qui était anticommuniste.
Oui, donc en juillet 1941, Vichy, par la voix de Darlan, fait à Hitler une offre d'alliance incroyable que j'ignorais totalement.
Une découverte de Bernard Costagliola qui a fait ce chapitre incroyable sur cette offre d'alliance qui est faite par Darlan, qui va très loin. C'est-à-dire que Vichy est d'accord pour renverser les alliances. Ça a un effet terrible. Vous imaginez, la France qui déclare la guerre à l'Angleterre. Enfin, c'est ça l'impact.
Ça veut dire que Vichy deviendrait Rome ou Tokyo, quoi.
C'est une espèce d'axe. C'est le fantasme de rejoindre les forces de l'axe, mais sans se rendre compte que l'Allemagne considère la France comme un vaincu. Et que ce qu'attend Vichy, c'est-à-dire une contrepartie politique, une reconnaissance de droits à venir sur l'Empire, une reconnaissance d'un partenariat, ça, les Allemands ne sont pas du tout prêts à l'accepter. Et cette offre, les Allemands ne vont pas y répondre.
La page la plus sombre et la plus criminelle de l'engrenage de la collaboration du régime de Vichy est sa participation active à la politique allemande d'extermination des Juifs qui, durant l'été 1942, a conduit à la déportation de 24 000 Juifs, dont 4 000 enfants. Laurent Joly, on sait aujourd'hui comment Pierre Laval, qui est revenu au pouvoir donc en juin 1942, et René Bousquet, le secrétaire général de la police, ont répondu avec empressement aux demandes des Allemands, allant jusqu'à leur livrer les enfants juifs que les Allemands ne demandaient pas. Pragmatique et sans scrupules, Pierre Laval est indifférent au sort des Juifs. Ce qui compte pour lui, c'est assurer l'avenir de la France dans une Europe nazie. L'alignement du problème juif français sur le problème juif allemand, dit-il, ne nous coûte rien et n'a pour nous que des avantages. Dans cette tâche, Laval peut compter sur l'ambitieux René Bousquet. « Les Juifs, je les sonne dur pour qu'ils comprennent », déclare Bousquet. « La France ne s'en portera pas plus mal », fin de citation, même s'ils ont besoin de l'accord final du maréchal Pétain. Laurent Joly, que sait-on exactement de l'implication de Pétain dans ce crime d'État et qu'est-ce que les recherches récentes nous apprennent ?
Alors, ce que les recherches récentes nous apprennent, c'est ce que j'ai intégré dans le chapitre sur ce que j'intitule « Le crime », c'est qu'on est à un moment où Pétain a progressivement perdu son pouvoir effectif. 41, il a nommé Darlan, mais il reste chef de l'État. Avril 42, il nomme Laval chef du gouvernement. Et là, Laval, de fait, elle est quasi plein pouvoir. Mais Pétain garde une autorité morale. Autrement dit, s'il n'est pas d'accord, rien ne peut se faire. Et c'est vraiment le drame de l'été 42. Et
juste une chose, il faut rappeler que Pierre Laval a dit « Je souhaite la victoire de l'Allemagne ».
Voilà, le contexte, c'est... On parlait de 41... Et là, on est un peu dans une même logique, c'est-à-dire qu'il y a une forme de précipitation du gouvernement. L'été 41, on pensait que l'Allemagne allait vite vaincre l'Union soviétique. Et là, début juillet 42, on est à un moment où les Allemands ont des succès militaires spectaculaires sur le front russe et en Afrique. Et c'est ce moment précis où ils réclament, on veut, entre 30 et 40 000 juifs et juifs en âge de travailler. Et évidemment que dans cette logique, là, il y a une précipitation de Vichy qui veut donner satisfaction aux Allemands. Mais il y a une cohérence dans la politique de Vichy. Depuis 40, Vichy interne les juifs étrangers et fait des juifs français des sous-citoyens. Donc Bousquet se précipite, donne un accord très vite, en moins d'une semaine, et dit « on va vous donner le nombre de juifs que vous voulez, mais vous nous laissez faire et vous nous laissez les choisir ».
Il fait ça pourquoi ?
Il fait ça parce qu'il y a la logique de l'antisémitisme xénophobe, raciste de Vichy. Il fait ça parce qu'il faut alimenter la politique de collaboration. Il fait ça aussi pour des questions de souveraineté, il veut que ce soit la police française qui soit... Il y a plein de facteurs qui expliquent. Et ce qui signe vraiment le crime, et ça c'est vraiment l'une des découvertes qu'on a faites, c'est que, d'une part, Laval doit mentir en Conseil des ministres. Et ce qu'on a découvert, c'est qu'au sein du gouvernement... Il y a des gens qui ont compris qu'il y avait quand même un crime, parce qu'on sait qu'Hitler a déjà menacé d'exterminer les Juifs. Ça a même été publié en une de la presse collaborationniste début 1942. Donc on ne peut pas imaginer que si en pleine guerre, Hitler fait affréter des trains pour envoyer des Juifs dont il appelle à la mort depuis des mois, ce n'est pas pour leur faire du bien. Donc on se doute bien qu'il y a une politique criminelle qui se prépare. Et il va y avoir... Et on cite notamment dans le livre le journal inédit du directeur du cabinet civil de Pétain,
André Lavagne,
qui dit « Mais on est en train de se rendre complice d'un crime. Laval est en train de déshonorer Pétain. » Et Lavagne est désolé de voir Pétain s'effondrer. Et
oui, il dit,
suivre complètement.
Je le cite dans votre livre, et l'impression qu'on arrive à l'extrême limite de ce qu'on peut céder aux Allemands avant de s'abîmer dans le plus abject déshonneur. Il dit, le pauvre maréchal se déshonore.
Et quelques jours plus tard, il va l'engueuler. Et le pauvre Pétain, qui est 86 ans, pris comme un enfant dans le pot de confiture, dit, je suis désolé. Voilà. En fait, ils ont été entraînés dans un engrenage criminel. Laval a menti, Bousquet a manipulé, et Pétain a eu cette phrase terrible en Conseil des ministres. La distinction entre les Juifs étrangers et les Juifs français est juste et sera comprise de l'opinion. Et ce qu'on sait, c'est qu'elle n'a pas été comprise de l'opinion. C'est que dès les premières rafles, les gens ont été choqués. Il y a eu des protestations publiques et Vichy a été obligé de revenir en arrière. Et ça aussi, c'est une chose qui est peu connue. Après septembre 1942, il n'y aura plus jamais en zone sud de rafles visant des femmes et des enfants. C'est bien la preuve qu'il s'est passé quelque chose, un crime, que Vichy avait des marges de manœuvre qu'il a utilisées de manière absolument criminelle à l'été 42, puis après Vichy reviendra en arrière, la preuve qu'il pouvait le faire un peu plus tôt.
Mais vous dites que le maréchal, finalement, ne savait pas vraiment, quoi. On a l'impression, dans ce que vous dites, qu'on l'a fait dans son dos.
On l'a fait dans son dos parce qu'effectivement, Laval a menti. Laval, en Conseil des ministres, a dit « je ne demande pas de décision » alors que Bousquet a déjà pris la décision. Il a dit « les Allemands veulent faire un État en Pologne, je ne serai pas déshonoré voilà. ». Et donc, il y a eu comme ça, un enfumage. Et Pétain n'a pas voulu voir ce qui se passait alors qu'il avait quand même beaucoup, beaucoup de signaux d'alerte qui lui ont été envoyés.
Il savait ce qui se passait en Pologne.
Il n'a pas voulu voir ce qui se passait, alors même qu'il y a des gens qui sont venus le voir. Il y a le consistoire israélite central qui lui a envoyé un rapport qui est absolument saisissant. il a pris ça d'un revers de la main. Vous savez, la lâcheté, le déni, ça fait partie pleinement du crime.
Merci Laurent Joly. Dans le prochain épisode, nous verrons que l'invasion allemande de la zone libre en novembre 1942 ne marque pas la fin de la collaboration, ne marque pas la fin du régime de Vichy. Elle s'aggrave, cette collaboration, en 1943 avec la création du STO, le service du travail obligatoire, et de la milice.